Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore ensemble la démarche stratégique en entreprise.
Bonjour. Et pour ça, on s'appuie sur un guide pratique très intéressant, la démarche stratégique, du management stratégique au management opérationnel, qu'on trouve sur le site lesclésdumanagement.com.
Oui, un excellent point de départ.
C'est une analyse, on pense, utile pour les étudiants, ceux qui préparent des concours, les enseignants et bien sûr les professionnels qui sont confrontés à ça tous les jours.
Effectivement. La stratégie, bon, l'origine est militaire, hein, on le sait, mais c'est vraiment devenu central en gestion dans les années 60.
Ah oui, quand même.
Oui. On va essayer de décortiquer un peu ce que ça recouvre aujourd'hui. Alors, pour Chandler, par exemple, c'était définir les buts, les objectifs à long terme et puis allouer les ressources nécessaires pour les atteindre.
Logique. Et Ansoff, lui, voyait ça comme un choix, en fait. Un choix pour adapter l'entreprise à son environnement via ses activités, ses ressources.
D'accord. Donc, si je résume un peu, le management stratégique, ça fixe le grand cap, la vision à long terme.
C'est ça.
Tandis que le management opérationnel, c'est comment on traduit ça en actions concrètes au jour le jour.
Exactement. C'est la mise en œuvre. Et c'est un processus absolument essentiel pour la compétitivité.
J'imagine, oui.
Tout à fait. Et ce processus, il s'articule souvent autour de deux grandes approches, deux grandes logiques, si on veut. On a l'approche par le positionnement. Et puis l'approche par la rupture.
D'accord. Alors, commençons peut-être par la première, l'approche par le positionnement. Ça sonne très rationnel, ça. On analyse d'abord l'environnement, le marché, les concurrents.
C'est l'idée, oui.
Et ensuite, on définit la stratégie. Une démarche très...
délibérée, quoi.
Voilà, c'est ça. Une démarche très planifiée. On pense au modèle LCAG, Learn Christensen Andrews Goff, qui est un peu l'ancêtre du SWAT.
Ah oui, le SWAT. Voilà, c'est cette analyse séquentielle. On regarde l'environnement externe, interne, puis on formule. Ansoff a aussi beaucoup formalisé ça. Il insistait sur l'analyse externe-interne pour définir des vecteurs de croissance, l'avantage concurrentiel, les synergies. Le tout dans une perspective très dynamique d'adaptation. Et il y a Michael Porter, bien sûr, incontournable sur ce sujet.
Absolument. Porter, lui, met vraiment l'accent sur le positionnement face à l'environnement concurrentiel. Comment bâtir un avantage qui dure ?
La question clé.
Exactement. Et pour ça, il faut identifier les facteurs clés de succès, les fameux FCS, dans son secteur. Comprendre les règles du jeu pour trouver la meilleure place. Ok, trouver la bonne place. Mais ces modèles, ils ont parfois du mal à anticiper les forts, les gros changements, les ruptures, non ?
Ouais. Quand l'environnement bouge très vite.
C'est une excellente remarque. C'est justement une des limites pointées du doigt. Face à ça, une autre approche a émergé.
La fameuse approche par la rupture, donc.
C'est ça. Elle part moins de l'analyse de l'environnement pour s'y adapter, mais davantage des forces internes de l'entreprise, de ses ressources, de ses compétences.
Pour imposer quelque chose de nouveau ?
Voilà, pour imposer une stratégie, parfois en rupture totale avec le marché existant. On parle ici plus d'un processus émergent, moins planifié au départ.
Intéressant. Et là, on pense à quels auteurs ?
Alors, il y a Jay Barney, avec son approche basée sur les ressources, le modèle VRIN, ça dit quelque chose ? Oui. Valeur, rareté, inimitabilité, non-substituabilité. Exactement. Puis, VRIO avec l'organisation. L'idée, c'est ça. Si une entreprise possède des ressources qui cochent ses cases, elle a une base solide pour un avantage durable. Et Amel et Prahlad aussi, il me semble.
Avec l'intention stratégique, les compétences fondamentales.
Tout à fait. Les core competencies.
C'est l'idée de s'appuyer sur ce que l'entreprise fait de mieux, mais vraiment mieux que les autres, pour innover radicalement.
L'exemple de Honda avec ses moteurs est souvent cité, c'est vrai. D'abord les motos, puis les voitures et même les tondeuses.
C'est l'illustration parfaite. Ou l'arbre des compétences de Canon aussi. On cultive des savoir-faire uniques, les racines, et ça permet de nourrir toute une gamme de produits, de nouvelles branches.
Cette logique de rupture, on la retrouve dans d'autres modèles connus, j'imagine.
Oui, bien sûr. On peut penser à l'innovation de rupture de Clayton Christensen qui distingue bien l'amélioration continue de la création de nouveaux marchés qui peuvent parfois disrupter des acteurs établis.
Ou la stratégie Océan Bleu.
Précisément, Kim et Mauborgne, eux, ils proposent carrément de sortir de la compétition frontale, de cet océan rouge sanglant.
Pour créer son propre espace.
Voilà, pour trouver ou créer un océan bleu, un espace de marché sans concurrence. Et ça passe par ce qu'ils appellent l'innovation valeur.
Avec la grille ERSC, c'est ça ? Éliminer, réduire, renforcer, créer ?
C'est exactement ça. On repense complètement l'offre pour créer une valeur nouvelle et différente.
On pourrait aussi citer l'hypercompétition de Richard Daveney, où l'avantage est vu comme temporaire et où il faut constamment bouger, perturber le jeu. Ok, donc pour résumer, on a vraiment deux grandes logiques qui s'opposent, ou peut-être se complètent. D'un côté, s'adapter à l'environnement, bien analyser pour se positionner.
La logique d'adaptation, oui.
Et de l'autre, chercher à transformer cet environnement en misant sur ses forces uniques, ses compétences clés.
La logique de rupture.
C'est une bonne synthèse.
Comprendre ces différentes approches, ces différentes écoles de pensée, c'est vraiment crucial pour naviguer dans le monde économique actuel, qui est complexe.
Complexe et changeant.
Tout à fait. La stratégie, ce n'est pas une recette figée, hein. C'est une dialectique constante entre l'analyse externe et les capacités internes, entre la planification et l'adaptation, et parfois même la disruption.
Et la question reste entière pour chaque organisation.
Comment orchestrer au mieux ses ressources pour non seulement survivre, mais surtout prospérer durablement dans cet environnement qui n'arrête pas de bouger.
Une question fondamentale, en effet. Pour celles et ceux qui voudraient approfondir ces notions, explorer d'autres outils ou théories en management organisationnel et stratégique...
Il y a de quoi faire.
Et le site lesclésdumanagement.com propose de nombreuses ressources, y compris le guide pratique qu'on a évoqué au début, une mine d'informations.